L'éclat d'une star. Septembre 1972. Le vent de septembre soufflait sur les pelouses mal tondues du campus, soulevant des papiers froissés et des feuilles mortes comme un mauvais film d'auteur. C'était la rentrée, ma dernière, et je sentais déjà l'odeur de la consécration dans l'air. Ou c'était peut-être juste les flatulences de Robert. Peu importe. À 20 ans, j'étais déjà finissante en communication télévisuelle, un métier méconnu et sous-estimé qui allait pourtant porter mon nom au sommet de la gloire. Les autres étudiants ne m'aimaient pas, mais je mettais ça sur le compte de la jalousie. J'avais de l'aplomb, de l'ambition et surtout un niveau d'élégance que personne ne semblait comprendre. Ils me regardaient comme une bête de cirque alors que eux, ils portaient des tricots beige. Le premier devoir de l'année était simple, du moins en apparence. Présenter un bulletin météo comme si on était en direct à la télévision. Les deux années précédentes, j'avais fait tous mes travaux avec Robert. On se comprenait sans se parler, ce qui, dans son cas, était une bénédiction. Mais pour cette dernière année, j'avais envie d'élargir mes horizons créatifs et surtout de m'entourer de gens qui allaient pouvoir me propulser encore plus loin. C'est comme ça que j'ai jeté mon dévolu sur Yvon, le bolé de la classe. Un garçon à lunettes épaisses et toujours habillé comme s'il s'en allait à l'église. C'était le genre d'élève qui corrige les professeurs sur le type exact de connecteur vidéo qu'on doit utiliser. Il ne fut pas facile à convaincre, mais après un rendez-vous improvisé au rack abaissé à la sortie des cours, il changea mystérieusement d'avis. Les jours suivants furent entièrement consacrés à la planification de notre travail. Nous nous rencontrâmes chaque après-midi dans le local de production, une pièce qui sentait la poussière et le café frette. Rapidement, nous conclûmes que présenter la météo sous la pluie, c'était mille fois plus intéressant que sous un ciel bleu. Nous voulions du drame, de la tension. Pendant que je planifiais mon look, des cheveux bouffants à l'ombre à paupières bleues, Yvon parlait de voltage et de comment éviter les courts-circuits sous la pluie. C'était sa façon de contribuer à l'art. Ensemble, nous formions une équipe improbable, mais efficace. Tout ce qu'il nous manquait, c'était la bonne tempête. Notre lieu de tournage, lui, était déjà choisi. Selon Yvon, un champ situé derrière une usine abandonnée sur la rive sud de Montréal offrait un décor à la fois pittoresque et venteux. L'idée me plut immédiatement. Plutôt mourir noyé que de filmer un bulletin météo avec, en arrière-plan, des gratte-ciels et des cônes oranges. Nous commençons donc à surveiller les bulletins météorologiques avec ferveur. Finalement, le 10 septembre 1972, toutes les conditions étaient réunies. On y annonçait de la pluie, accompagnée de rafales de vent et même un léger risque d'orage en plein après-midi. C'était parfait. Le jour venu, nous prîmes donc le matériel et nous traversâmes le pont Jacques-Cartier à bord de la petite Datsun beige d'Yvon, une voiture si branlante qu'elle semblait avancer par intervention divine. Nous roulâmes à travers la grisaille, dépassant les rues industrielles et les entrepôts décrépits, jusqu'à ce qu'ils désignent un terrain vague derrière une usine désaffectée. À notre arrivée, seulement quelques grains d'eau tombaient. Le champ vaste et mal entretenu était bordé de clôtures rouillées et d'amas de pneus abandonnés. De longues herbes ondulaient sous les bourrasques et au loin, plusieurs érables tordus se battaient presque pour rester debout. Yvon planta le trépied dans la terre humide pendant que je déployais mon parapluie à poids blanc, un accessoire que j'avais choisi autant pour sa fonctionnalité que pour son fort potentiel esthétique. Parce qu'avoir l'air élégant à la caméra, c'était ma priorité ultime. Le ciel s'assombrit peu à peu et un frisson parcourut tout mon corps. Était-ce l'atmosphère dramatique ou simplement l'extase de sentir que cette fois-ci, j'aurais enfin la meilleure note de la classe? Je resserrai mon imperméable rouge, tandis qu'Yvon ajustait la caméra d'un air concentré, comme si nous nous préparions à filmer un documentaire pour la BBC. Le vent sifflait si fort, couchant les arbres trempés autour de nous. Je pouvais sentir mes cheveux se gonfler dangereusement malgré les litres et les litres de fixatifs que j'avais utilisés avant de partir. Avant de commencer le tournage, Yvon insista pour procéder à quelques tests de microphone. Il déroula un long fil en spirale, noir et rigide, qu'il connecta avec attention entre l'appareil et la caméra. Rien n'était sans fil à cette époque. Chaque mouvement devait se faire en évitant de trébucher sur un câble. Un cours entier était d'ailleurs dédié à cet art complexe que je ne maîtrisais pas encore. Je me plaçais devant l'objectif, le micro serré entre mes mains gantées, tandis qu'Yvon vérifiait les cadrans de son équipement. À chaque bourrasque devant, les aiguilles s'emballaient. Mon camarade de classe fronça les sourcils et fouilla dans son sac, d'où il extirpa une housse en poils destinée à étouffer les sifflements. Il enfila l'accessoire par-dessus le microphone d'un geste rapide. Avec cette touffe de fourrure grise, le microphone ressemblait désormais à un remords entre mes mains. Nous procédâmes ensuite à plusieurs tests, où je projetai des phrases improvisées. Cette fois, les aiguilles restèrent stables, tremblotant à peine malgré les rafales. Nous étions enfin prêts pour la première prise. Oui, en effet, Jeannette, le ciel s'apprête à nous tomber sur la tête. Mon caméraman Robert et moi... Hostie d'épaisse. J'ai dit Robert. Coupe. J'étais tellement habitué de travailler avec Robert que je me trompais de nouveau à 3 ou 4 reprises. Chaque erreur me faisait rouler les yeux au ciel, mais je reprenais aussitôt, décidé à donner une performance digne de mon talent. Si les bulletins météorologiques étaient admissibles aux Oscars, j'aurais été nominé cette année-là sans le moindre doute. Pendant ce temps, sous la pluie, qui jusque-là s'était contentée de quelques gouttes timides, se mit à tomber de façon plus soutenue. Heureusement, Yvon avait prévu une large toile de plastique pour protéger l'équipement. Quant à moi, je me contentais de rester fièrement debout sous mon superbe parapluie. Des risques d'orage violents risqués qui risquent d'apporter des risques de pluie. Je trébuchais dans mes mots encore et encore, comme si ma langue en avait contre moi. Chaque tentative me rendait un peu plus impatiente et la peur de manquer de pellicule s'installa lentement. Nous n'avions apporté que quelques bobines et chaque seconde que je gâchais avec mon vomi verbal nous rapprochait du désastre. Le vent fouettait mon parapluie, mais je refusais d'abandonner. Yvon, lui, commençait à regretter amèrement d'avoir décidé de faire équipe avec moi. C'est alors qu'un premier coup de tonnerre résonna au-dessus de nos têtes. La pression monta d'un cran. Je sentais mes bottes rouges qui s'enfonçaient là, dans la boue. Puis, sans avertissement, le micro grésilla avant de finalement cesser de capter quoi que ce soit. La pluie avait dû s'infiltrer quelque part, court-circuitant tout. Je restai figé quelques secondes, incapable de croire à ma malchance, puis je laissai échapper une série de jurons. Qui aurait pu croire que filmer en plein orage était une si mauvaise idée? Un second coup de tonnerre éclata, beaucoup plus proche cette fois. Je sursautai, resserrant instinctivement ma pointe sur le manche de mon parapluie. Le ciel, déjà sombre, vira presque noir derrière moi. Le temps jouait contre nous, et je savais qu'il nous restait que quelques précieuses minutes avant que tout ne devienne impraticable. Yvon, pâle comme un drap, proposa d'attendre que l'orage passe pour mettre l'équipement à l'abri et en profiter pour régler le problème du microphone. Mais il n'était pas question pour moi de reculer maintenant. Parler de l'orage pendant que les éclairs lacéraient le ciel derrière moi, c'était du pur génie artistique. Après quelques minutes de négociation, je réussis à lui faire comprendre que c'était notre chance de devenir famous dans notre cohorte. Que les professeurs allaient pleurer d'admiration devant notre travail. Pendant qu'Yvon s'affairait à démonter et à tapoter le micro dans l'espoir de le ramener à la vie, je décidai de maximiser mon temps. Sortant un petit miroir de mon sac à main, je réappliquai une couche de rouge à lèvres malgré le vent qui menaçait de m'arracher le tube des doigts. Il était hors de question d'apparaître négligé devant les caméras, même dans la tempête. L'élégance avant tout. Une fois mes lèvres impeccables à nouveau, je commençai à répéter mon texte à voix haute. Alors que je répétais pour la 10e fois, Les aiguilles sur la console se mirent à vibrer de nouveau. Sans perdre de temps, Yvon me tendit le micro. Je serrai mes doigts autour de l'appareil comme si l'on venait de me remettre une torche olympique. Il était temps. Bon, finissons-en. Je pris une grande inspiration et me lançai dans mon introduction dramatique. À peine avais-je prononcé les premiers mots de mon bulletin qu'un éclair colossal jaillit du ciel noir et frappa directement mon parapluie, attiré par sa structure métallique. Une lumière blanche m'engloutit, suivie d'un craquement assourdissant qui sembla me traverser jusqu'aux os. Le courant électrique parcourut mon corps avec une violence inouïe, brûlant tout sur son passage. Mes muscles se contractèrent si brutalement que je perdis le contrôle de mes gestes et mes jambes se mirent à tressauter comme si je dansais une gigue infernale. Mon cœur, lui, sembla s'arrêter avant de repartir en force. Lorsque l'éclair s'évapora aussi rapidement qu'il était apparu, ce fut le tonnerre qui prit le relais, grondant si fort qu'il me laissa sourd de l'espace d'un bref instant. Mes yeux, écarquillés par le choc, paraissaient vouloir s'échapper de leur orbite. Une odeur âcre de chair brûlée m'enveloppa. Mes cheveux pendaient autour de mon visage en mèches noircies fumantes et de la boucane s'échappait lentement de mes oreilles, comme si mon cerveau lui-même avait été grillé. Et malgré tout, debout au milieu du champ détrempé, je tenais encore fièrement mon parapluie carbonisé et mon micro brûlant. Je restais là, figé comme une statue de pierre, à regarder le vide, tandis qu'ils vont crier de panique. Puis, un mot s'échappa de mes lèvres, aussi faible qu'un souffle. Hôpital. La requête était simple, mais elle était chargée d'intensité. Yvon coupa rapidement la caméra, qui avait tout capté de ma transformation en paratonnerre vivant. Il me retira ensuite le parapluie brûlé des mains et le micro, qui émettait encore de faibles crépitements. Puis, sans un mot de plus, il m'empoigna le bras et m'entraîna vers la voiture. Ses mains tremblaient, mais il réussit tout de même à boucler ma ceinture avant de fermer la portière dans un bruit sourd. Il me laissa là, dans l'habitacle, tandis qu'il courait à l'extérieur pour récupérer le matériel. Il ouvrit le coffre et y jeta le trépied, les bobines, la caméra et chaque pièce d'équipement qu'il avait cru bon emmener. Moi, je fixais toujours le vide, sans trop réaliser ce qui venait de m'arriver. La boucane qui s'échappait encore de mes oreilles remplit bientôt l'habitacle, me donnant l'air d'une patate humaine au four. Yvon s'engouffra dans la voiture, claquant la porte derrière lui avec l'énergie d'un désespéré. Paniqué, il échappa les clés alors qu'il tentait de les mettre dans le contact. Il se coucha sur le volant, toussant à cause de la boucane et se redressant d'un coup avec les clés. Une fois le moteur en marche, il appuya sur l'accélérateur avec une telle force qu'on aurait dit qu'il cherchait à nous propulser dans une autre dimension. Les pneus crissèrent sur l'asphalte et la voiture s'élança à toute vitesse. La pluie tombait toujours sans relâche, frappant le pare-brise avec violence. Malheureusement, un seul essuie-glace fonctionnait, réduisant nettement la visibilité devant nous. Yvon pencha la tête sur le côté pour tenter de mieux voir, cherchant désespérément une station de service où il pourrait appeler une ambulance. Nous roulions beaucoup trop vite pour une chaussée aussi détrempée, mais l'urgence avait pris le dessus sur la prudence. Soudain, je sentis la voiture se soulever légèrement, comme si elle flottait. L'aquaplanage. Un demi-battement de cœur plus tard, nous dérapâmes violemment vers la droite. Je n'eus même pas le temps de crier tellement le choc fut brutal et rapide. Le capot s'écrasa contre un bloc de béton en bordure du boulevard et l'impact me propulsa vers l'avant. Ma ceinture de sécurité, mal bouclée dans la précipitation, ne fit rien pour m'empêcher de voler à travers le pare-brise à la vitesse de l'éclair. Le verre éclata autour de moi dans un tintement macabre. Je volai quelques instants, raide comme une barre, me disant que je ressemblais sûrement à l'un de ces fous qu'on lance hors des canons dans les cirques. Je retombais lourdement, m'attendant à heurter l'asphalte de plein fouet. Mais au lieu du fracas attendu, ce fut un plouf magistral. J'ouvris les yeux sous l'eau, trop abasourdi pour comprendre ce qui venait de se passer. Une seconde, j'étais assise dans la voiture sale d'Yvon, et la suivante, mes jambes battaient dans l'eau. Quand je refis surface, haletante, je réalisais que j'avais atterri dans une piscine hors terre, installée au beau milieu du stationnement d'un magasin spécialisé en la matière. Je m'agrippais au bord, en plastique blanc, avec toute la force que mon corps calciné pouvait encore m'offrir. Un peu plus loin, à travers les éclats de verre et le capot en accordéon de la voiture, j'aperçus le coussin gonflable d'Yvon qui était déployé comme une grosse guimauve blanche. Finalement, Yvon s'en sortit avec quelques égratignures et une entorse au poignet. Quant à moi, les médecins dirent que mon bain improvisé avait probablement sauvé ma peau. En effet, la tempête dans l'eau avait aidé à refroidir mes brûlures en attendant l'arrivée des secours. Après l'accident, je passai plusieurs semaines à me remettre. Partout où j'allais, je dégageais une fine odeur de rôti qui déstabilisait les gens. Ce fut aussi la première et la dernière fois que je fis équipe avec quelqu'un d'autre que Robert pour un projet scolaire. Au final, nous récoltâmes un misérable C, accompagné d'une facture salée pour remplacer l'équipement endommagé. Mais malgré tout, je graduai quelques mois plus tard avec tous les honneurs. Du moins, dans ma tête, j'étais convaincu que l'institution avait été honorée d'avoir compté une future légende parmi ses élèves.